On a fait aussi une étude passionnante que je détaillerai après, une étude de sociologie des imaginaires sur les imaginaires du leadership pour savoir justement quels sont les imaginaires dominants et surtout quels sont les leviers pour les influencer. Et on est bien obligé d'agir aux deux niveaux, là encore, sur les représentations sociales du leader désirable ou du leader qu'on veut être ou du grand leader et sur les façons pratiques de décider, diriger et d'innover avec le cœur. Là encore, avec empathie, avec intuition et aussi avec courage. Parce que bien souvent, on peut avoir de l'empathie, mais le passage aux actes, donc le courage de passer à l'action, ça c'est autre chose.
Bonjour, Céline Pufardi-Jvili, Look Sharp. Pour le Sens et l'Action, le podcast du C3D, aujourd'hui je suis très heureuse de recevoir Hélène Le Tainot de Heart Leadership University. Bonjour Hélène.
Bonjour Céline.
Alors on va parler de conduite du changement via le leader de l'entreprise. Alors je vais te présenter rapidement Hélène et ensuite je vais te laisser parler parce que je n'ai pas beaucoup de voix aujourd'hui. Tu es directrice du fonds de dotation Jean-Noël Torel et administratrice de Heart Leadership University depuis plus de 4 ans, et tu t'investis énormément, tu as plein d'autres projets. Tu es également membre du comité d'investissement consultatif de Mirova Foundation, membre du comité scientifique de Futurible, et tu es aussi membre du board de Share, qui est une ONG qui œuvre à l'émergence de nouveaux leaders. C'est pile ton sujet. Auparavant, tu as été directrice du secteur transition écologique du groupe SOS, et tu as fait du conseil, notamment chez Carbon 4, pendant 6 ans. Alors aujourd'hui, chez Heart Leadership University, vous avez à cœur de changer le moteur et l'essence, même si les deux mots ne sont pas terribles à utiliser aujourd'hui, mais quand même, ça fait sens, du leadership, pour pouvoir enfin entrer dans cette transition dont tout le monde se gargarise, mais qui a à peine démarré, et encore. Donc la HLU, ton université, s'appuie sur deux piliers, tu m'expliquais, l'éducation et la recherche, pour changer le leadership dans son cœur. Et je vous dis parce qu'avant même Heart Leadership University, il y a une rencontre avec Jean-Noël Torel. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que je pense que c'est ça qui est l'étincelle finalement pour toi. Et est-ce que tu peux nous expliquer comment cette rencontre a influencé ton parcours?
Absolument. Donc j'ai rencontré Jean-Noël, on peut dire par hasard, par personne interposée. On m'a recommandé de le rencontrer. On m'a dit « Vous êtes suffisamment fou pour bien vous entendre ». Et je pense que c'est la meilleure introduction que j'ai pu avoir avec Jean-Noël, qui donc aujourd'hui est président fondateur d'une grosse entreprise de dermocosmétiques qui s'appelle Naos, plus connue pour ses marques Bioderma ou Institut Estéderm. Et Jean-Noël avait mis en place un fonds de dotation qui est aujourd'hui l'actionnaire à 98% de l'entreprise. Donc j'ai été interpellée par ce nouveau modèle de gouvernance qu'on appelle au sens large les fondations actionnaires. Je me suis dit, voilà un dirigeant qui fait des choses extrêmement originales, ambitieuses, pionnières. Et il m'a dit qu'il cherchait donc à développer les activités de ce fonds de dotation, dont l'objet social est de contribuer à la réalisation du potentiel humain. Donc j'ai pris ce défi avec intérêt en 2019 et Jean-Noël avait déjà l'intention de créer une université totalement nouvelle qu'il a appelée un post-Harvard, en disant finalement Harvard c'est le modèle du XXe siècle, moi je veux créer un post-Harvard pour le XXIe siècle et en plus là-dedans j'ai la conviction que l'aptitude clé du dirigeant demain c'est l'intelligence du cœur. À ce moment-là, j'avoue que j'ai été assez surprise.
Effectivement, Jean-Noël, très fou.
Mais
très fou,
qu'est-ce que c'est très fou, projet très fou, complètement un ovni et en même temps passionnant. Et on a commencé à cette époque
et
à travailler.
Et convaincant, visiblement.
Très convaincant. Ça m'a embarqué parce que ça résonnait avec ce que j'ai vécu, compris de mes 20 premières années dans la vie professionnelle, qui est pas de transition sans transition du dirigeant.
Ouais, il manque un truc, c'est sûr. Pour planter le décor, parlons du pourquoi. Donc, à la HLU, vous êtes partie des constats que tu appelles les trois défis majeurs du XXIe siècle, que sont les effondrements, l'effondrement écologique en particulier, mais aussi l'explosion des inégalités et les dérives de l'intelligence artificielle. Tous les trois liés. Est-ce que tu peux nous en parler?
Oui, c'est vrai que moi, j'ai un peu une passion pour la prospective depuis longtemps. C'est-à-dire que je pense qu'un leader, pour prendre des bonnes décisions, évidemment, il a la nécessité de comprendre le monde qui vient, les signaux faibles, les tendances de fond. Et que bien souvent pris par l'urgence, on n'a pas forcément le temps de se plonger dans la prospective stratégique. Ce qui m'a interpellée justement dans ces discussions de départ avec Jean-Noël Torel pour construire l'université, c'est que Jean-Noël avec une entreprise qui opère un peu partout dans le monde, avait la conviction que parmi les trois défis que tu viens de citer, celui des dérives de l'intelligence artificielle était peut-être celui qui allait le plus mettre à mal notre humanité. Et comme moi, j'avais travaillé pendant toutes les années qui précèdent plutôt sur des enjeux de transition écologique ou de justice sociale, c'était pas forcément une évidence au départ. Et d'ailleurs, les sondages et statistiques montrent que ce n'est pas forcément une évidence en France, ni chez les dirigeants en France, alors qu'il suffit de passer le Rhin. Et en Allemagne, les enjeux liés aux usages du numérique et à leurs usages déviants ou abusifs sont beaucoup plus discutés et débattus. Donc on a constaté que parmi les trois défis clés, on était bien obligé de les mettre au même plan, voire peut-être même de mettre assez en haut de la pile les dérives de l'intelligence artificielle. Et ça m'a passionnée, parce que finalement, en faisant un puzzle plus complet du monde qui vient, on est plus capable de dessiner les trajectoires des individus et des entreprises.
Non, mais c'est vrai, ce sujet de l'intelligence artificielle liée aux autres effondrements est unique. Et encore une fois, on fait preuve d'une certaine naïveté en pensant qu'on va pouvoir créer quelque chose qui devient un monstre, mais on réussira à le contrôler. En réalité, on voit bien que tout s'enchaîne assez rapidement. On commence déjà à le voir.
En fait, je pense qu'en France, là encore, on ne voit qu'un infime morceau de ces enjeux. Les grands acteurs dominants de l'intelligence artificielle sont plutôt aux États-Unis, en Chine, en Israël aussi d'ailleurs, et dans d'autres pays. On débat peu des évolutions législatives liées à l'IA en Europe. Or, il y a des directives européennes qui sont en train d'être travaillées sur ces sujets qui sont majeurs, notamment sur ce qu'on appelle le high-risk IA, l'intelligence artificielle présentant des risques géostratégiques ou des risques sociétaux majeurs. Et en fait, évidemment, on pourrait penser que l'IA est une réponse à certains défis de la transition écologique ou, à l'inverse, une catastrophe absolue en raison de son empreinte écologique majeure sur les data, les serveurs. La réponse est sans doute un peu des deux, mais ce qui est certain, c'est que les tendances actuelles vont plutôt vers une surenchère majeure de l'IA, avec là encore des effets écologiques, mais surtout des effets humains en termes de liberté et de capacité de décision, y compris des dirigeants, assez perturbants.
Oui, c'est vrai, parce que, et à nouveau, tu mentionnais l'impact écologique de l'outil, mais ce n'est qu'un aspect des dangers écologiques de l'IA.
Oui, bien sûr, les impacts de l'intelligence artificielle par toutes les infrastructures qui sont nécessaires pour la faire fonctionner, et là encore, à nouveau, tant sur la collecte des données que sur leur stockage et sur les usages qu'on en fait sont incroyables. Il faut lire, par exemple, le contre-atlas de l'intelligence artificielle de Kate Crawford pour s'en convaincre, mais c'est absolument passionnant, tant sur l'amont que sur l'aval, et on ne parle même pas du recyclage des équipements, évidemment, électroniques. Mais au fond, la problématique qui nous a interpellés, c'est l'effet de l'IA sur les relations humaines et la dégradation, la forte dégradation probable de la qualité des relations humaines. Ça peut être la liberté, ça peut être la sensibilité dans les relations interpersonnelles, ça peut être les biais des algorithmes, sujet qu'on voit aussi régulièrement quand même dans les médias. Mais au fond, l'angle d'attaque qui nous passionne, c'est en quoi les capacités humaines, les capacités sensibles de l'humain, en particulier l'intuition, mais aussi l'empathie, sont 100 fois plus belles et meilleures que l'intelligence artificielle et que, de fait, il faut se battre pour les préserver.
Oui, elles vont être de toute façon impactées, voire altérées, c'est fort probable. Alors, pour revenir à notre sujet de la fabrique des leaders, donc on a un bug qui fait qu'on aboutit toujours au même résultat parce que les leaders, finalement, sortent des mêmes moules. C'était bien ça l'intuition de Jean-Noël Torel de créer donc une nouvelle université. Et donc, on ressort une vision et une intention fondatrice. Il y a une forte nécessité, une urgence même, à révolutionner les imaginaires et les pratiques du leadership pour préserver notre humanité. Ce qui fait de nous, les humains, et aussi notre maison commune. Hein. Donc, quand je dis notre humanité, finalement, c'est aussi l'écosystème dont on dépend. Parce que finalement, maintenant qu'on l'a altéré, on en dépend, mais sa préservation dépend de nous. Donc, c'est évidemment pas simple. Là, je ne fais que répéter un constat. Mais ce que vous avez identifié, c'est donc ce qui bloque, c'est le verrou, finalement. C'est le leader, parce que tous les enjeux ont des verrous de personnes, de cadres sociotechniques, de gouvernance, de réglementation, etc. Mais tout ça, c'est les leaders qui ont une influence là-dessus. Donc, vous vous dites, on va changer le leader, on va changer son imaginaire, sa façon de fonctionner quelque part. Et comment est-ce qu'on influence, comment est-ce qu'on reconfigure, comment est-ce qu'on reprogramme les imaginaires du leadership?
Alors, c'est un long défi, un défi à long terme. Pour identifier les meilleurs leviers pour le faire, on a fait deux choses. On a fait un projet pilote, qui est un parcours expérimental pour dirigeants qui s'appelle « Du cœur aux actes » et on a mis un programme de recherche-action pour évaluer les impacts de ce programme en pratique. Et de l'autre côté, on a fait aussi une étude passionnante que je détaillerai après, une étude de sociologie des imaginaires sur les imaginaires du leadership pour savoir justement quels sont les imaginaires dominants et surtout quels sont les leviers pour les influencer. Et on est bien obligé d'agir aux deux niveaux, là encore, sur les représentations sociales du leader désirable ou du leader qu'on veut être ou du grand leader et sur les façons pratiques de décider, diriger et d'innover avec le cœur. Là encore, avec empathie, avec intuition et aussi avec courage. Parce que bien souvent, on peut avoir de l'empathie, mais le passage aux actes, donc le courage de passer à l'action, ça c'est autre chose.
Mais en plus, l'empathie, ce n'est pas forcément une qualité qu'on associe au leadership, parce que chaque, finalement, tu m'expliquais aussi que chaque pays ou culture, quelque part, a une certaine représentation du leader et que le courage, oui, on peut en parler, mais l'empathie, c'est presque tabou.
L'empathie, c'est tout à fait exotique. C'est même statistiquement prouvé que la plupart des top dirigeants ont un défaut d'empathie par rapport à la population générale. Et même un défaut...
Et c'est bien pour ça qu'ils sont leaders,
d'ailleurs. C'est pour ça qu'ils sont leaders, ou c'est pour ça qu'ils sont arrivés leaders, ou c'est pour ça qu'ils se maintiennent comme leaders, même dans des phases difficiles. Et même à l'extrême, j'ai discuté une fois avec un fonds d'investissement qui m'expliquait qu'il faisait passer des tests d'empathie aux DG des participations et qui choisissait d'investir auprès des DG qui avaient le niveau d'empathie le plus bas. Voilà. Donc c'est dire que c'en est même devenu presque une règle. C'est dire que quand on est finalement dans une qualité de relation humaine, en commençant par le sourire et le plaisir d'être là, dans certaines réunions, dans des niveaux de direction élevés, ça se fait pas. C'est-à-dire que l'imaginaire dominant est plutôt tourné vers le sans-cœur, vers la personne froide, supposément rationnelle, qui donc prendrait les bonnes décisions pour un groupe humain. Bien entendu, dans tous les groupes humains, il y a un leader, il y a une nécessité à décider, orienter l'action collective. Le sujet, c'est que ces modèles-là qui ont leurs avantages, ont aussi leurs forts inconvénients, et je vais préciser un peu sur le défaut d'empathie. Il y a deux types de défauts d'empathie. Il y a le défaut d'empathie appelé passif, qui se rapproche des profils autistiques, donc des personnes qui peuvent avoir des difficultés, effectivement, à reconnaître les émotions de l'autre, mais qui peuvent avoir un cadre moral très structuré, donc prendre des décisions qui ne nuisent pas au bien commun. Et il y a le défaut d'empathie actif, qui sont les traits psychopathiques des individus. Et malheureusement, chez les leaders, il y a, selon la littérature académique, là encore, 10 à 20% de profils psychopathiques contre 2% dans la population générale.
On est ravis, on est donc dirigé par des psychopathes.
Ça veut dire que, pour partie, on en connaît un, et dans les postes de décision en entreprise, dans les secteurs financiers et dans les secteurs politiques, bien entendu, ces traits psychopathiques sont beaucoup plus présents. Ça veut donc dire que la capacité à ne pas prendre en compte la souffrance immédiate ou la souffrance future d'autrui est présente. Ça veut dire que faire un écocide, ravager des forêts et des écocides qui vont conduire à des difficultés humaines, avec certitude, à court et à moyen terme, ne pose pas problème à ces profils-là, puisqu'ils ne souhaitent pas se préoccuper de la souffrance d'autrui, voire ils vont construire leurs bénéfices au détriment d'autrui.
Oui, et puis le poste justifié, c'était un mal nécessaire. Absolument. Si je ne l'avais pas fait, quelqu'un d'autre l'aurait fait. Ça, c'est
alors,
classique.
Je vous invite à découvrir les travaux donc, des universités de Ulm et de Copenhague sur ce qu'on appelle le dark factor, les traits obscurs de personnalité des dirigeants. C'est exactement ça, le dark factor, c'est les traits obscurs de personnalité, donc la capacité à profiter des autres à son profit, en construisant des argumentaires pour justifier ses décisions supposées rationnelles. Donc c'est extrêmement puissant en fait comme mécanique.
C'est puissant et ça s'auto-entretient parce que tu as parlé des fonds d'investissement qui recherchent justement les profils les moins empathiques. Mais ensuite tu as aussi tout le système des grandes écoles qui sont financées justement par des leaders qui choisissent. Et donc ça s'auto-entretient et personne ne pense au bien commun. Et d'ailleurs en ce moment les grandes écoles dénoncent ces connivences entretenu, mais...
Alors, le modèle de la fabrique des leaders est donc ce qu'on appelle les top exécutives. Le mot lui-même pose question. En fait, quand j'ai réfléchi au mot CEO, Chief Executive Officer, je me suis demandé d'où venait le mot officer. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que les premiers exécutifs MBA ont été conçus et fabriqués à Harvard après la Deuxième Guerre mondiale.
Oui, j'allais dire, c'est très militaire.
Sur le même modèle que les formations des officiers. Et donc, un CEO, un patron, il est là pour être l'officier, le soldat, l'exécutif, l'exécutant de la commande de ses actionnaires, puisqu'on est en général dans des modèles de shareholder capitalism, c'est-à-dire d'un capitalisme qui sert des dividendes aux actionnaires. Même s'il existe aujourd'hui des modèles mutants avec des capitalismes de parties prenantes, mais dans l'essentiel des cas, le CEO est un officier au service
exécutif.
De la exécutif au service du profit. Ça veut donc dire que il n'est pas tellement bienvenu de contester les règles. Donc on applique le cadre de pensée dominant. Et ça veut dire que la fabrique des leaders est faite pour les outiller en marketing stratégique, en finance, en restructuration, tous les éléments qui permettent la performance financière à court terme. Même si on voit poindre dans les cursus des nouvelles questions, ça reste extrêmement minoritaire. Et les structures des business schools elles-mêmes, donc la fabrique elle-même des leaders, effectivement sont des entités qui sont très largement financées, surtout aux États-Unis, par les acteurs économiques principaux, qui font des dons à ces écoles pour renouveler, former les mêmes profils.
Le cheptel, ouais.
D'où la nécessité finalement de faire une brèche dans ce système, ouais. Et de créer une nouvelle fabrique indépendante. Par sa gouvernance et par son mode de financement.
Alors, tu vas nous en parler, parce que le sujet de la formation, évidemment, c'est le cœur de ce podcast. Et j'aimerais bien que tu reviennes sur le concept même de l'université. Tu me parlais, quand on a préparé, de la définition. Qu'est-ce qu'une vraie université ?
Alors, c'est toujours intéressant de revisiter le passé pour construire le futur. Et ce qui m'a passionnée, c'est d'aller investiguer quelles ont été les premières universités en Europe. Dans l'imaginaire collectif, on pourrait penser à Oxford, à Cambridge, et en fait, une des plus anciennes universités, c'est l'université de Bologne, en Italie. Et cette université, elle a été créée comme un espace de liberté de pensée, de liberté de débat pour élever l'esprit, et un espace d'influence pour faire progresser l'humanité. Et ça, c'est des fondamentaux absolument passionnants, et dans le cœur des activités des universités, on trouve donc, en général, trois piliers, l'éducation, la recherche, et l'espace de débat d'idées. Si on n'a que l'éducation, on oublie de documenter au juste les enjeux sociaux, économiques ou d'ailleurs l'efficacité des propres programmes. Si on ne fait que le débat d'idées, ça peut être un débat de café du comptoir non argumenté. Et si on ne fait que de la recherche mais qu'il n'y a pas de mise en pratique, ça ne sert à rien. Donc cette complémentarité des trois facettes des universités, là encore éducation, recherche, débat d'idées et au sens large, rayonnement dans la société.
Et puis, il y a l'objet, tu disais, pour faire progresser l'humanité. Tu disais
oui.
Ça aussi,
donc
finalité, il y a un objet, la finalité.
Voilà. La finalité, en fait, c'est le point de levier essentiel, c'est quand on crée une structure ou une organisation, au service de qui, au service de quoi ?
Au service de qui, bien sûr.
Alors, on pourrait dire les universités publiques, à financement d'État, ont nécessairement une orientation d'intérêt général. Elles poursuivent des champs de recherche qui doivent bénéficier à l'intérêt général. Elles forment des étudiants sur toutes les sciences possibles. Mais on peut là encore questionner les éventuelles fragilités, voire les dérives de certaines universités aujourd'hui. Donc il peut y avoir des dérives politiques, il peut y avoir des dérives au sens où les chercheurs vont aller sur des champs de recherche plus faciles à faire financer. Donc il y a toutes sortes de dérives aussi au sein des universités soutenues par des financements publics. Et la question, c'était donc celle-là. Entre les business schools d'un côté qui fabriquent l'armée des généraux du capitalisme et les universités qui ne sont pas exemptes de difficultés aussi, est-ce qu'on ne peut pas réinventer une université plus pure dans son modèle ou en tout cas plus fidèle aux fondamentaux des premières universités ?
Et alors, tu parlais à juste titre de l'importance de la gouvernance et de l'origine des financements. Tu parlais de l'indépendance. Comment est-ce que vous résolvez ce sujet ? J'ai bien compris qu'il y avait le fonds de dotation qui a un caractère éducatif et scientifique. Comment est-ce que vous faites pour sensibiliser les donateurs ? Qui sont vos donateurs ? Est-ce que vous avez commencé depuis longtemps ? Est-ce que tu peux parler un peu de la première cohorte ?
Bien sûr. Alors, on a créé l'université en 2021. Donc, ça reste une structure jeune. Mais pendant cette période, 2021-2022, effectivement, on a fait un premier parcours pilote, un parcours de transformation pour dirigeants qui s'appelle « Du cœur aux actes », qui dure 18 mois. C'est un parcours avec deux jours tous les deux mois destiné à des DG, des membres de comités de direction d'entreprises petites, moyennes ou un peu plus grosses. Et donc on a observé cette première promotion, comme des cobayes, qu'on s'entend. Mm-hmm. Et on est absolument ravis des conséquences positives de cette pédagogie qu'on a mis en place, qui est une pédagogie qu'on appelle pédagogie inductive. Dit autrement, c'est pas du cours descendant. Voilà, c'est pas du cours descendant. C'est, on va à la rencontre de dirigeants qui sont déjà en train de faire ces choses-là.
Oui, sinon ils seraient pas venus vous voir.
Et sinon ils seraient pas venus. Voilà. Et donc on les a attirés. Enfin, ceux qui sont venus à nous sont venus par curiosité parce qu'ils avaient fait un peu le tour des dispositifs de formation existants pour dirigeants et ils sentaient qu'il leur manquait une carte.
Très bien.
Il y avait une énergie interne d'envie de passer à l'action pour que son entreprise soit plus adaptée aux défis du monde qui vient, plus juste. Plus belle quelque part, mais pas forcément la boîte à outils. Donc ils sont venus avec cette curiosité qui est de dire, dans notre parcours, on a mis des ingrédients qu'on trouve difficilement ailleurs, essayons. Donc on a fait ce pilote pendant un an et demi, on a désormais des alumni, qu'on appelle des H-alumni, qui sont eux-mêmes du coup les ambassadeurs de notre projet. Florence Guémy, directrice générale de Bayard, Cyril Vu, PDG de Seabird, pour en citer deux, qui sont actifs et qui sont aujourd'hui membres de la gouvernance de HLU, qui sont administrateurs de HLU. Donc ça, c'est mon premier sujet, c'est une université co-construite avec des dirigeants sur des bases pragmatiques, qui est un parcours qui fonctionne, qu'on a testé, qui fonctionne et qu'on a envie progressivement de développer. Non pas pour en faire une machine rentable de formation, puisqu'en termes de statut, on a choisi une association d'intérêt général à caractère éducatif et scientifique. Donc on n'a pas un objectif de faire du volume ou de la marge de manière forcenée, on a un objectif de servir le bien commun. Et donc ça attire de fait des profils qui sont dans cette dynamique. Sur les financements, on a passé les deux premières années avec un financement d'amorçage philanthropique par le fonds de dotation Taurel. C'est ce qui fait le plus souvent aujourd'hui en philanthropie sur des projets innovants. C'est pas le bon moment d'aller chercher justement des financements d'entreprise, ni même des financements publics à ce stade. Donc on est dans un modèle où la philanthropie permise par le modèle de fondation actionnaire de l'entreprise Naos nous a permis d'amorcer cette université. Et nous sommes précisément dans le défi en ce moment, à fin 2023, de chercher des grands partenaires, donateurs complémentaires qui partageraient cette vision et aussi des soutiens sur programmes et projets de recherche.
Très bien, le message est passé. Alors, tu nous parlais des valeurs qui sont souvent effacées des cursus, entre guillemets, traditionnels, notamment dans les écoles plus business, et qui pour vous sont centrales au point de devenir des conditions pour un leadership à la hauteur des enjeux. Et ce sont les valeurs du cœur et de l'intuition et du courage. Alors, le cœur, pas au sens gentil qui est souvent dévoyé hein, d'ailleurs, mais au sens courage, mobilisation pour passer de la connaissance aux actes, à l'action, de prendre les bonnes décisions, parfois difficiles, parfois à contre-courant. Ça, je comprends. Mais quid de l'intuition ? On dit toujours que ça doit être rationnel, que ça doit être, même si rationnel aussi est totalement dévoyé, je suis complètement lucide là-dessus, mais en tout cas, c'est ce qui est prôné dans le business. Comment est-ce que tu expliques l'importance de l'intuition dans le business et comment tu fais travailler sur ce sujet de l'intuition ? Comment est-ce que tu réveilles l'intuition chez tes leaders ?
Absolument. En fait, on s'est rendu compte que beaucoup de dirigeants d'entreprise prenaient des décisions en suivant leurs intuitions, mais souvent n'osaient pas le reconnaître. Donc c'est une aptitude existante des dirigeants, mise en œuvre bien souvent dans des situations qui peuvent être des situations critiques, gestion de crise, pour aller vite, je suis mon intuition, ou des intuitions relationnelles, avec quel partenaire je vais travailler dans le business. Donc de fait, l'intuition est déjà utilisée, mais elle n'est pas reconnue à sa juste valeur et elle n'est pas enseignée. Alors, peut-on enseigner l'intuition ? Non, ce n'est pas parce qu'on lit un livre sur l'intuition qu'on va être plus intuitif ou l'utiliser. Par contre, est-ce qu'on peut mieux savoir la nommer et l'utiliser au bon moment ? Oui. Alors, ça m'amène à expliquer un petit peu ce que c'est que l'intuition. Et d'ailleurs, je recommande un excellent livre d'Isabelle Fontaine, avec qui on travaille là-dessus, qui est « Libérer la voix de votre intuition ». Isabelle a fait un travail d'enquête, un travail journalistique et aussi une recension scientifique de ce qu'on sait sur l'intuition. Bon, l'intuition, c'est une aptitude humaine et aussi une aptitude de tous les animaux, j'ai envie de dire, qui est caractérisée par sa dimension multisensorielle. C'est-à-dire que pour être intuitif, on fait appel à tous nos sens, d'une part, et on fait aussi appel à notre mémoire émotionnelle dans notre cerveau, et ça fonctionne par des circuits rapides, donc du néocortex, qui amène une réponse intuitive sans qu'on sache justement expliquer au juste comment et pourquoi. D'où elle vient. Donc, être en situation de nommer son intuition et de pouvoir l'utiliser suppose qu'on n'est pas complètement déconnecté de son corps et de sa relation au monde. Par exemple, une personne entre dans la pièce, eh ben, j'ai déjà une intuition, qui bien souvent est la bonne parce qu'elle est fondée sur une mémoire de mes événements de vie et un certain nombre de savoirs. Donc, par exemple, je vois arriver quelqu'un avec un profil menaçant, cette intuition, elle est précieuse parce que je vais peut-être me protéger ou savoir quoi faire. De la même façon, l'intuition dans différentes cultures, elle est aussi logée dans le cœur. D'où le fait que nous, on la rattache à l'intelligence du cœur, parce qu'on a découvert en lisant des papiers de recherche encore que une personne exprime beaucoup de choses par le champ électromagnétique cardiaque. On a tous une fréquence cardiaque particulière, et donc quand on est à proximité, dans un rayon de 2 mètres, on sent le champ électromagnétique de la personne qui nous donne une indication, par exemple, sur son niveau de stress. Donc, c'est pour ça que je disais qu'elle est extrêmement sensorielle, cette intuition, et que par ailleurs, plus on avance en âge, et ça c'est une bonne nouvelle, plus nos expériences de vie et nos émotions stockées nous permettent d'avoir une intuition potentiellement de plus en plus juste sur nos sujets.
Ça s'affine.
Et autant on pourrait dire le déclin cognitif ou la rigidité mentale peut être un problème, à l'inverse, si on écoute son intuition, elle peut être bonne.
D'accord.
Et elle permet d'ailleurs de compenser certaines rigidités de pensée. Donc pour faire travailler sur l'intuition pour nos dirigeants, on les fait déjà découvrir les différents types d'intuitions. Donc on peut avoir des intuitions relationnelles, là encore, je sens bien cette personne. Et rien que la phrase « je le sens bien », l'olfactif est prouvé, là encore, par un chercheur, Jean De Setti, qui travaille au MIT, qui a fait une recension des papiers sur l'importance de l'odorat. Je le sens bien, c'est juste. C'est-à-dire que les informations olfactives sont précieuses.
C'est comme toutes les expressions liées au ventre.
Absolument. Et en anglais, d'ailleurs, l'intuition, c'est « gut feelings », c'est les sentiments de l'intestin. Bon.
Ouais.
Donc, tout ça sont des éléments de décision absolument essentiels. Donc, l'intuition relationnelle se fonde beaucoup là-dessus. L'intuition fulgurance, qui est Eureka, qui est « j'avais un énorme problème et paf, ça y est, la solution me vient ». Là, c'est le cerveau qui a fait son travail. On n'est pas du tout capable de la rationaliser, mais elle est extrêmement
puissante. Les circuits ont été touchés, mais on ne sait pas.
Et l'intuition, il y a un problème. Celle-là, elle est connue depuis longtemps en aéronautique. Les pilotes d'aviation ont des checklists extrêmement précises avant le décollage. Mais s'il a l'intuition qu'il ne faut pas décoller, c'est qu'il ne faut pas décoller. Et donc, cette intuition de « il y a un problème », il faut absolument l'écouter. Et bon, voilà. Donc, il y a différents types d'intuitions qu'on peut mobiliser dans différents types de cadres de décision. Après, il y a aussi la nécessité de savoir parfois décider seul, parce que si en réunion de comité de direction, il faut post-rationaliser son intuition, on va y passer une heure, une semaine, un mois, et au final, la décision collective sera peut-être sous-optimale parce que les autres n'avaient pas l'intuition en question. Et ça, c'est difficile pour un dirigeant de dire « Bon, moi, je le sens, je le sais, il faut y aller. »
Oui, puis les autres peuvent avoir des biais, le biais de plaire, le biais de confirmation.
Absolument. Et puis, il peut y avoir une ambivalence entre suivre son intuition et co-décider. Donc, comment on partage le pouvoir si on dit, au fond, c'est moi qui ai la bonne intuition?
C'est vrai, parce que qui va prendre la responsabilité au fond?
Au fond, alors ça va poser les questions du cœur collectif, et ça, c'est un des modules qu'on met dans notre parcours. C'est un cœur collectif, c'est pas une gouvernance complètement horizontale, et c'est pas le monde des bisounours. C'est comment on fait dans un groupe humain pour que les aptitudes du cœur de chacun soient au bon endroit. Alors, peut-être qu'un tel va avoir des intuitions relationnelles excellentes, et l'autre, des fulgurances, c'est très bien et c'est complémentaire.
Mais donc, il faut les reconnaître.
Il faut les connaître et donc il faut pouvoir s'ajuster dans un groupe.
Ok, très très intéressant. Est-ce que tu as un ou deux exemples comme ça de passages aux actes qui demandent, enfin qui ont fait appel à l'intuition? Enfin, je sais pas si
oui.
Tu as ça.
Oui, alors on a commencé à construire un catalogue d'études de cas du Heart Leadership en pratique.
Très bien.
Justement pour cette question-là, qui est de dire, bah, donnez-nous des exemples concrets, quoi, comment ça se passe. Alors, je vais vous en raconter deux rapidement. Le premier, c'est Michel Meunier, qui est patron d'une entreprise de serrerie-menuiserie dans l'Oise, entreprise à mission d'ailleurs. Et Michel, au moment du Covid, avait des difficultés avec deux gros clients. Et il travaille en appel d'offres. Et les deux gros clients ne voulaient pas rehausser les prix par rapport à l'explosion du prix des matières premières. Et s'il ne le faisait pas, il allait quand même, grosso modo, à la faillite pour son entreprise, ou en tout cas dans des difficultés très sérieuses. Et il a eu et l'intuition et le courage de dire, finalement, je casse ces contrats. Je prends un risque énorme, parce que ce faisant, je m'ampute d'une très large partie de mon chiffre d'affaires, mais tant pis, j'y vais. Voilà. On pourrait dire ça, c'est vraiment tête brûlée, c'est pas du tout responsable. Et en fait, ça a été la bonne. Ça a été la bonne parce qu'effectivement, il y a eu une phase difficile, mais son alignement par rapport à ses convictions sur « il faut faire le travail au juste prix », et en plus avec des critères écologiques et humains qui sont en place dans son entreprise, lui a apporté des nouveaux clients et des nouveaux bailleurs sociaux qui ont désormais choisi de travailler avec lui. Et donc finalement, c'était fondé sur une colère, au fond, sur une injustice et sur une rage. Mais cette intuition de dire « faut que je sorte de là et qu'on fasse vraiment ce qu'on doit faire et proprement » a amené l'entreprise sur une bien meilleure trajectoire.
Et puis ça montre aussi que ce n'était pas des clients pour lui. Enfin, moi, je suis persuadée que chaque entreprise a des clients qui lui ressemblent. Et là, si le client voit très bien que tout le monde est en difficulté et ne veut pas aider son partenaire, finalement, son fournisseur, c'est que ce n'est pas un partenaire. Et donc, il y a un problème.
Là, il y a un courage. Et alors, donc, on a travaillé avec lui à mettre en forme cette histoire qui est renoncer à un client au nom de ses valeurs.
Oui, mais je suis d'accord.
Et c'est vrai que ce n'est pas courant dans le business. On va dire, on va vouloir faire de la croissance en chiffres. Et finalement, on ne va pas forcément prendre cette décision.
D'accord.
Bon, j'en ai une autre, c'est la gestion de crise. Il y a eu un incendie il y a quelques années sur l'usine Bioderma qui a ravagé l'usine. Et le lendemain, les acteurs assurances et directeurs financiers de Jean-Noël Torel disaient « bon, bah, il faut que tu mettes les gens au chômage technique ». C'est la seule décision rationnelle, financièrement parlant. Et Jean-Noël, son sang d'un fait qu'à tour, a dit « bah non, pas du tout, j'ai l'intuition qu'il faut qu'ils viennent au boulot ». Et c'était probablement pour le coup un coup de génie ou en tout cas une excellente intuition parce que ça redonnait vie à un collectif humain qui était désespéré d'ailleurs par cet incendie.
Bien sûr.
Une énergie collective de dingue, vraiment d'être animé par les émotions et par des sentiments positifs pour reconstruire ensemble. Et humainement et économiquement, cette décision s'est avérée la meilleure. Et là encore, tout était contre lui. Bon voilà, c'était deux exemples parmi d'autres et ce ne sont pas des modèles à suivre, c'est ça le point que je voulais dire, c'est ces cas sont divers, à chaque situation, la bonne décision.
Oui, bien sûr, mais ils renforcent le sentiment d'appartenance et les valeurs de l'entreprise dont le chef d'entreprise a pris cette décision sur la base d'intuition. Donc merci pour ces partages. Alors, on va parler aussi de ce qui peut bloquer. La taille, ça compte. Pardon, alors, c'est un podcast d'entreprise, mais quand même,
absolument.
Pour une grosse entreprise, est-ce que les changements peuvent avoir lieu seulement parce que des leaders sont sensibilisés côté cœur et côté tri? Parce que ça, je caricature volontairement,
Il y a la taille et la gouvernance. Et la taille est plus souvent un problème qu'un avantage en la matière. On a fait le choix, en tout cas dans nos parcours pour dirigeants, pour l'instant, de s'adresser plutôt à des entreprises petites, moyennes et pas trop grosses, et surtout indépendantes, c'est-à-dire indépendantes financièrement, pas en plein LBO et pas purement du CAC 40 ou de l'entreprise cotée. Dans cette phase expérimentale, en tout cas, parce que à la fois mon expérience professionnelle et la littérature nous montrent que dans des modèles pur de très grandes entreprises cotées, de shareholder capitalisme, ça va être difficile, et pour des raisons de personnes, et pour des raisons de modèle de gouvernance et donc de finalité, d'aller prendre les décisions les plus courageuses, les plus ambitieuses en matière de transition. Alors je vais détailler un peu les deux, je vais commencer par les structures de gouvernance. Je l'ai dit tout à l'heure, le modèle 20e siècle du shareholder capitalisme est quand même à la racine de la non-prise en compte de l'intégralité des besoins des parties prenantes.
C'était même un peu fait pour.
C'était fait pour. Donc, on ne fait pas une nouvelle recette dans un vieux moule. Donc, il existe des grandes entreprises qui ont d'autres schémas de gouvernance, notamment des fondations actionnaires historiques en Allemagne et dans les pays scandinaves ou en Suisse. Je vais en citer quelques-unes. Velux, Bosch, Rolex et un certain nombre de gros monstres comme ça sont détenus par des fondations actionnaires. Et ce, depuis des décennies. Ce qu'on a vu sur ces entreprises, c'est que d'une part, elles ont mieux traversé les crises, et elles ont été nombreuses au XXe siècle, pour des raisons à la fois de modèle qui est une politique prudente de création de réserves financières, ce qu'on ne fait pas dans les entreprises qui sont orientées 100% dividendes, donc des réserves vraiment importantes, un matelas pour traverser les crises. Deuxièmement, la finalité du travail. Quand on vient au travail, on ne vient pas pour servir un rendement à des actionnaires individuels ou à des fonds d'investissement, on vient finalement pour le projet collectif. Et si cette fondation, par ailleurs, a un objet philanthropique, quelque part, en plus, tant mieux. Donc, un état d'esprit des collaborateurs différents et une moindre tension permanente sur le court terme. Donc, ces trois ingrédients ont documenté le fait que des modèles de grosses fondations actionnaires sont à la fois plus viables et plus durables, dans les deux sens du terme. C'est peu courant en France, hein, des grosses fondations actionnaires, on n'en a pas en France. Donc, c'est un des modèles de gouvernance qui permet d'eux. Il y en a d'autres. Il y a tout ce qui est l'univers du capitalisme des parties prenantes ou dans la composition même du partage du pouvoir et du partage de la valeur créée, on a une représentation de plusieurs parties prenantes. Actionnariat salarié, fondateur, fondation actionnaire à nouveau, fonds à impact, etc. Donc, un des modèles de gouvernance pionniers qui nous a beaucoup inspirés, c'est l'entreprise Ultéria en Bourgogne, qui est une synthèse de tout ça, puisque justement leur gouvernance est faite de ces différentes catégories d'actionnaires et qui a un partage de la valeur créée et un partage du pouvoir absolument original. Ce qui me permet de dire, en passant, que l'entreprise à mission n'est pas allée jusque-là. L'entreprise à mission est une avancée, mais elle a un organe, un comité de mission qui est consultatif et qui n'est pas décisionnaire. Donc les parties prenantes ne sont pas dans la gouvernance même de l'entreprise en réalité.
C'est des observateurs.
C'est des observateurs, des conseils avisés parfois, mais en tout cas, ça n'est pas une gouvernance des parties prenantes. Donc la gouvernance est clé pour que l'intelligence du cœur d'un dirigeant ou d'équipe puisse s'exprimer. Et d'ailleurs, on a fait un projet de recherche avec le cabinet Profil là-dessus, sur le pouvoir du cœur, qui est quelles sont les formes de gouvernance qui permettent l'expression de l'intelligence du cœur. Une fois que j'ai dit ça, dans les grandes entreprises, et ça nous ramène aux imaginaires du leadership et à la fabrique des leaders, on va trouver des leaders qui sortent du même moule et qui vont donc appliquer les règles du jeu de l'entreprise où ils se trouvent, même si le dimanche, ce sont des belles personnes, en semaine, ils vont jouer dans les règles du jeu et avec les codes qu'ils ont appris. Donc je ne crois pas beaucoup, effectivement, à la capacité de faire pivoter très vite les mammouths.
D'accord, donc c'est les modèles de gouvernance qu'il va falloir influencer aussi. Et ce n'est pas simple, et je voudrais que tu nous parles peut-être de ce que vous avez fait avec Usbek Erika, il y avait un tribunal pour les générations futures que vous avez organisé, ou auquel vous avez participé, je ne sais pas trop, mais où Alexandre Kouchner a rappelé dans une plaidoirie que ce n'est pas simple, parce que les imaginaires et les pratiques dominantes du leadership sont sans cœur, par définition. Tu peux commenter
Oui, on a fait une soirée en juin dernier avec Usbek, qui était vraiment fantastique, où on a fait d'abord témoigner à la barre, donc c'est un procès fictif, hein, des dirigeants sur le dirigeant avec cœur ou sans cœur. Donc Anne Charpie, qui est dirigeante de Voisins Malins, a témoigné qu'on peut diriger avec cœur. Un psychologue a témoigné des dérives de profils de personnalité des top dirigeants,
oui,
que j'évoquais tout à l'heure.
Parlait, les dark factors.
On a parlé à nouveau de l'intelligence artificielle qui nous amène encore plus dans le sans-cœur. Et à la fin, effectivement, la plaidoirie d'Alexandre Kouchner était extrêmement étayée, argumentée, convaincante et séduisante pour nous dire en fait, ça fait 500 ans, voire 5000 ans, que les dirigeants sont structurellement sans cœur, et d'ailleurs c'est bien comme ça, et pour se battre contre les méchants, il faut que le dirigeant soit méchant, et donc si c'est pas nous qui allons être méchants, nous allons nous faire écraser. Ce qui est un argument qui s'entend.
Oui,
c'est-à-dire, comment faire dans des phases de conflit, enfin, comment ne pas être bisounours, ça s'entend parfaitement, c'est-à-dire on ne peut pas mettre de côté le fait que l'humanité a vécu des guerres, encore des guerres, encore des guerres, et encore des conflits, et qu'on les vit encore aujourd'hui. Et donc cet équilibre entre ne pas être naïf, avoir les bons outils, et néanmoins, partout où c'est possible, pousser notre humanité vers le mieux, il n'est jamais évident à trouver.
Non, c'est vrai. Alors on comprend aussi que côté gouvernance, fondateur, dirigeant, actionnariat familial ou coopératif, il y a plein de modèles qui pourraient mieux marcher que d'autres pour travailler le leader aux tripes et au cœur, évidemment. Mais j'aimerais qu'on rentre un peu dans la technique de la méthode. Est-ce que tu peux nous parler de la théorie des systèmes que vous utilisez à HLU? Tu parles de 8 niveaux.
Oui. Alors, en fait, je faisais référence aux travaux de Donella Meadows, donc l'épouse de Dennis Meadows, très connue tous les deux pour les travaux du Club de Rome. Mais il se trouve que Donella Meadows a ensuite beaucoup travaillé en systémique et elle a écrit un papier très connu qui sont 8 leviers clés pour faire bouger un système. Pour ne pas s'épuiser sur les leviers qui servent à rien.
Donc,
le moment où j'ai découvert ça, où j'essayais de pousser la transition écologique des entreprises, je me suis dit « Alléluia, ça y est, j'ai compris quelque chose ». Et c'est très perturbant pour un ingénieur comme moi d'ailleurs. Elle dit que la mesure, le pilotage, le cadre, les sanctions, les forces de rappel sont des outils, mais parmi les moins efficaces.
Oui. C'est contre-intuitif.
C'est très contre-intuitif.
Pourtant, ça fait 50 ans qu'on voit que c'est vrai.
Voilà. Et que donc, au fond, on ne fait un changement systémique, là encore, que si on redéfinit la vision et la mission d'une organisation. Sinon, on bricole. On bricole à la marge. Donc, on va réduire de 2% les émissions de CO2 et on va faire cocorico. Ça, bon, c'est du bricolage. Donc, donc, son papier est très intéressant parce que, bien entendu, les plus gros leviers sont aussi les plus difficiles à activer. Hein, c'est évident que c'est un peu plus difficile de changer la vision mission d'une entreprise que les KPI qu'on met à la fin de l'année.
Bah, surtout quand les leaders qui sont là sont payés justement et sont même configurés dans leur cerveau pour ne pas changer ces...
Alors,
et tout à l'heure, quand je disais c'est contre-intuitif, c'est affreux parce qu'en fait, ça devrait être intuitif que ça ne marche pas.
Tout à fait. Et énormément de gens s'épuisent avec une énergie colossale à des chantiers qui ne fonctionnent pas. Et ça amène à la question des structures verrouillées. Aujourd'hui, au XXIe siècle, quand on travaille dans une entreprise, bien souvent, on travaille dans une structure héritée, en fait, qui a été créée avant même qu'on soit né, souvent. Et ces structures héritées, elles sont, un, imparfaites, comme toute structure humaine, et deux, pas adaptées aux défis du XXIe siècle. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire table rase de tout le passé, parce que j'aime pas défendre une pensée déconstructiviste totale, mais ça veut dire qu'il faut être bien conscient que ces structures héritées, elles ont des verrous structurels. Et que donc... la transition, je reviens à ça, ne peut que très difficilement ou extrêmement lentement se faire dans les plus grosses structures. Alors même qu'on nous dit souvent, il faut faire bouger les mammouths. Mais non, c'est juste pas possible. Alors je vais donner des exemples pour dire que c'est pas possible. La gouvernance, la composition de la gouvernance et le modèle de gouvernance. Donc une entreprise, là encore, de shareholder capitalism, ne peut pas être un acteur rapide et efficace de la transition puisque les autres forces en présence ne sont pas représentées. Ça ne marche pas. Les actifs. Une très grande entreprise comme Total, mais on pourrait prendre n'importe laquelle autre, des énergies fossiles ou d'autres secteurs d'activité, a des actifs matériels et immatériels, et c'est dans sa rationalité économique de les valoriser le plus longtemps possible. Donc on ne va pas mettre à la poubelle les actifs du passé dans ces entreprises-là, alors que peut-être il faudrait le faire. Mais en tout cas, là encore, la rationalité dit, ces actifs sont là, il y a des dizaines, des milliers de personnes qui ont travaillé à les construire. Qu'est-ce qu'on fait avec ça?
Oui.
Donc cette question des structures héritées, certains connaissent peut-être les travaux de la chaire anthropocène de S.C. Clermont sur héritage ou démantèlement. C'est passionnant, hein, c'est de dire qu'est-ce qu'on fait de cet héritage? Là encore, je ne pense pas qu'il faille tout démolir d'un coup, ça serait socialement calamiteux, et économiquement aussi. Par contre, il y a vraiment une logique du courage de la fermeture progressive, correctement organisée, de ce qui ne fait plus sens dans le monde qui vient.
Et de l'accompagnement
des
gens.
Et de l'accompagnement, absolument. De l'accompagnement des personnes, des entreprises, des partenaires, etc. Donc cette logique de fermeture-transformation, elle est difficile parce que, là encore, les entreprises, le plus souvent, fonctionnent dans un schéma de croissance, en volume ou en marge, et pas dans des modèles de post-croissance. Alors le mot post-croissance, il est assez génial. Hein, c'est un concept qui a été posé sur la table par Geneviève Ferron. C'est de dire, on ne va pas avoir d'autre choix, de toute façon, que de fabriquer des business models de la post-croissance. Donc il est temps de s'y mettre. Hein. Il est vraiment temps de s'y mettre. Donc voilà, sur les leviers, pour finir, pour ne pas s'épuiser dans le détail, c'est vraiment fondamental de comprendre qu'il faut reprendre complètement le truc par le haut, que c'est souvent plus facile dans des PME familiales ou des entreprises à taille humaine. Je vais parler de Bayard. Bayard est une entreprise centenaire qui a commencé avec Le Pèlerin, puis après avec tous les contenus éducatifs jeunesse, les magazines jeunesse qu'on connaît tous. Et donc, elle a dans ses gènes, cette entreprise, une mission éducative, une mission d'information, une mission d'éducation, qui n'était pas forcément écrite en tant que telle, mais qui était déjà existante.
Et incarnée, et ça se voyait bien.
Et ça se voyait. Et donc, ça a été beaucoup plus facile pour eux, mais je n'ai pas dit que c'était 100% facile, mais plus facile pour eux d'instaurer un vrai cadre d'entreprise à mission et donc de pouvoir prendre des décisions qui peuvent être sur des questions écologiques, l'empreinte papier, enfin l'empreinte carbone du papier, etc., ou des décisions de type humain cohérentes avec cette mission. Parce que l'ADN était là. Dans d'autres entreprises, par exemple, je travaille en lien avec des entreprises dans le domaine de la boisson, c'est moins évident. L'ADN de départ, en fait, on fabriquait quoi, pour qui, au bénéfice de qui. Donc, par exemple, Velux. Velux, le fondateur de Velux n'a pas dit « je fabrique des Velux et j'en vends plein ». Il a dit « je veux amener l'air, la lumière et la santé dans les combles ». Bah, c'est une mission noble. Et cette mission noble, aujourd'hui, leur permet justement d'évoluer pour le siècle qui vient.
Très, très intéressant. J'ai bien aimé ton exemple sur Bayard, parce que le sujet des médias a aussi un effet important, puisque le média et le GIEC le souligne, c'est quand même un frein ou un levier sur toutes nos prises de décision individuelles et collectives. On est influencé par les médias, c'est un énorme pouvoir. Donc la responsabilité initiale d'un média, enfin Bayard n'est pas, est aussi un média. Donc, voilà.
Oui, en fait, l'influence sur les imaginaires collectifs, elle est subtile. Et justement, on voit en ce moment énormément de gens qui sont effrayés, apeurés ou soucieux des influences externes sur l'opinion des Français, pour citer que celle-là, à juste titre. Mais il faut raison garder, parce qu'en fait, l'étude qu'on a faite sur la sociologie des imaginaires avec le cabinet Eranos, on s'est demandé comment on fabrique nos imaginaires du leader désirable. Un jeune de 18 à 35 ans, pour lui, le leader désirable, c'est qui? C'est Musk, c'est le patron de Total, c'est un start-upper, c'est un influenceur, qui sait. Et donc, bon, les résultats sont publics, et on l'a fait pour ça, d'ailleurs, pour partager cette connaissance. On a découvert des choses passionnantes. On a découvert qu'en fait, les influenceurs, dont on dit le plus grand mal bien souvent, ont une influence de rang 2 sur les imaginaires du leader désirable pour un jeune. Et que la première, de manière totalement surprenante, et celle-là, je ne l'aurais pas pensé, en tout cas dans toutes les strates de la population, c'est son papa. Donc, son référent principal sur le modèle du bon leader ou du
Très
leader désirable, c'est son papa. Et pas sa maman, d'ailleurs, mais son papa.
Non, mais justement, c'est deux.
Et donc, ça veut donc dire qu'on peut s'épuiser aussi à essayer d'influencer sur les modèles de leadership dans les réseaux sociaux, avec un effet assez limité, en fait. Donc ça veut dire que les leviers pour influencer positivement ou négativement les imaginaires de leadership sont pas énormes. Et ça veut dire qu'en plus, il y a une inertie sociale et sociétale colossale, puisque les enfants vont largement, finalement, dupliquer le modèle de leader qu'ils ont connu enfant. Donc un enfant de cadre sup multinational qui a grandi là-dedans et pour qui c'est un modèle, même s'il dit le contraire, va continuer à considérer que c'est un modèle de leader finalement relativement désirable. Et donc il y a une reproduction sociale dans cette strate-là, tout comme le fils du boulanger va dire le patron de l'artisan local, c'est ça un leader désirable. Et donc ça veut dire que si on espère que les modèles de leadership évoluent, c'est en tendance longue, historique. C'est des mouvements, des courants de fond très longs. Et ça veut dire aussi que la strate du haut, le 1%, des enfants de top leader ou même le 0,1% est un verrou ou en tout cas un point d'inflexion majeur. Parce que là encore, les décisions qui portent sur l'avenir de notre économie, elles sont prises dans des lieux concentrés de pouvoir dans lesquels souvent l'héritage familial est clé.
Mais oui, c'est le verrou. Si le premier verrou, c'est la famille,
absolument.
C'est passionnant.
Et il y a des phénomènes de fidélité aux valeurs familiales
Bien
qui
sûr.
Se comprennent parfaitement. On va pas trahir, on va pas se mettre en rébellion totale, on va pas créer de conflit, qui fait que ces structures héritées, les structures économiques elles-mêmes, perdurent alors même qu'elles ont des effets néfastes.
Oui, c'est l'héritocratie finalement qui prime. Dans ces sujets-là, c'est-à-dire qu'on hérite non seulement d'un patrimoine financier, mais aussi intellectuel et émotionnel sans doute, et une culture qu'on va chercher
à pérenniser. Absolument. C'est-à-dire, on hérite d'un système de valeurs, et au fond, on n'est pas seulement un être d'argent ou de statut ou de pouvoir. On a une identité et une nécessité à préserver son identité pour se sentir bien, voire en biologie évolutionniste, la notion de relative fitness qui est « je me sens mieux si je m'assure que mon groupe proche va survivre plutôt que les autres ». Et ça, pour le coup, ça pose des questions de nature éthique.
Très, très intéressant. Alors, on parle d'études, parce que vous basez vos travaux sur des études. Est-ce que vous avez d'autres études en cours ou comment est-ce que vous sourcez? Parce que j'imagine que vous ne pouvez pas réinventer la roue. C'est très intéressant que vous alliez rechercher des choses qui sont déjà démontrées, prouvées et disponibles. Est-ce que vous avez d'autres... Est-ce que tu peux nous faire un petit spoiler? Est-ce que vous avez d'autres études sur lesquelles vous travaillez pour observer des effets concrets, pour démontrer peut-être des théories qui t'aideraient.
Absolument. On a notre nouveau projet de recherche-action en cours qui porte sur la métamorphose du dirigeant et de son entreprise et sur ce qu'on appelle les phénomènes d'influence et de résonance. Est-ce que c'est les dirigeants qui influencent ses collaborateurs, ses actionnaires, ses clients, ou est-ce que c'est le monde qui l'influence? Et donc, c'est lié aux travaux de Hartmut Rosa sur la résonance. Et c'est lié sur les travaux de Roger Su, qui est un sociologue en sociologie du lien. Donc, c'est toujours cette histoire de dans un lien relationnel humain, qui influence qui Ou est-ce que les deux s'influencent pour transformer et métamorphoser une entreprise, donc, et nous, notre point d'inflexion, c'est le dirigeant, c'est bien ce sujet-là, c'est au-delà d'une stratégie d'influence rationnelle, là encore, on travaille, on étudie la part de l'invisible, qui est, c'est pas juste les présentations qu'il va avoir faites, qui vont avoir une influence, c'est les jeux de pouvoir aussi qui vont avoir une influence. Donc, on a une chercheuse qui s'appelle Marie-Christine Villagordeau, qui nous épaule sur cette recherche-action sur la métamorphose en sociologie du lien. Et on espère faire, alors modestement, avancer un peu la science, parce qu'en fait, la sociologie s'est beaucoup intéressée à l'ensemble de la société, mais finalement assez peu aux strates de leadership, paradoxalement, alors que pourtant c'est un nœud humain assez intéressant. Donc on va travailler voilà, à fond dans cette matière-là pour mieux comprendre, là encore dans un monde qui change et qui change vite, est-ce que le dirigeant va réussir lui-même à se transformer suffisamment vite. Marie-Christine, elle a produit déjà des travaux, en fait, notamment un travail sur les leaders génératifs. La plupart des leaders sont des très bons leaders gestionnaires, heureusement, mais ils ne sont pas forcément ni des leaders visionnaires, ni des leaders génératifs au sens transformatif. Et donc son ouvrage précédent, qui s'appelle « Face aux défis, les entreprises se métamorphosent-elles » est passionnant parce qu'elle a permis de créer une typologie des leaders et aussi de mieux comprendre qui devient leader génératif et pourquoi. En gros, on aurait besoin de mettre à la tête des entreprises dans un 20e siècle un peu chahuté des profils de personnalités assez différents de ceux, là encore, qui sortent du moule habituel. Donc des profils intuitifs, socio-perceptifs, des profils qui, bien souvent, sont animés par une énergie, une motivation, ce qu'on appelle motivation intrinsèque extrêmement forte pour bouger les lignes. Et donc, absolument pas le profil conservateur. Donc, ces leaders génératifs, souvent, se sont construits par une énorme difficulté de vie qui a créé une énergie de combat, en réalité. Donc, ils sont prêts, vraiment, à aller se battre et être courageux au nom de valeurs, et pas seulement ambitieux ou entreprenants au nom de la réussite sociale. Et donc, c'est deux modèles de leaders totalement différents.
Oui, mais ensuite, il y a tout... Comment on adoube des leaders au poste où ils vont pouvoir exercer la fonction de leader. Et si le blocage se situe au niveau de l'adoubement, parce que tu parlais des sociétés qui sont dictées, enfin, dont les prises de décision sont dictées par tout un tas d'actionnaires invisibles, finalement, qui n'ont pas de responsabilité à la fin, qui prennent les décisions, mais sans les responsabilités qui vont avec, et donc qui ne vont pas adouber cette typologie de nouveaux leaders.
Tout à fait, et là, ça va avec l'intérêt général n'a jamais été la somme des intérêts particuliers.
Absolument.
Donc que ce soit dans les gouvernances cotées ou dans les gouvernances familiales, il y aura toujours des factions d'acteurs qui sont intéressés seulement par le dividende, et tant qu'à faire, le dividende tout de suite maintenant, enfin en gros, plus vite. Ce qui est, là encore, rationnel et compréhensible. Mais les Allemands ont fait une avancée dans les modèles de gouvernance qui s'appelle le Steward Ownership, donc c'est les travaux de Purpose Foundation à Berlin. Et ça, c'est vraiment passionnant, c'est de dire justement les personnes les plus concernées par le devenir collectif de l'entreprise, c'est quand même avant toute chose les collaborateurs, pour peu qu'ils soient motivés. Et donc, il faut que d'une façon ou d'une autre, l'entreprise appartienne à ceux qui réellement sont en situation de faire, et donc pas justement Absolument. À une trop grande partie d'actionnariat éclaté, invisible.
Déconnecté de la réalité
de ses besoins, de ses défis, etc. Donc ils ont mis en place différents modèles, d'ailleurs il faut lire le Steward Ownership Booklet, passionnant, avec des études de cas, et notamment un système de garant de la trajectoire de l'entreprise et de garant de sa mission dans certains cas. Y compris avec un droit de veto. C'est-à-dire qu'au niveau de la strate gouvernance, il y a un actionnaire à droit de veto qui peut dire « je refuse cette décision stratégique parce qu'elle serait au détriment de la mission ». Donc voilà, donc je pense qu'effectivement, ce n'est pas avec uniquement des belles paroles ou des intentions ou un discours bisounours qu'on fait bouger les entreprises. Il faut vraiment faire bouger et les règles du jeu et... les imaginaires et les compétences.
Et aussi nourrir ces contre-pouvoirs dont tu parlais, que ce soit le salarié lui-même, et peut-être donner des éléments de lecture à des parties prenantes externes qui pourraient mieux comprendre ce qui se joue et donc contre-attaquer quelque part.
Alors les contre-pouvoirs sociétaux aujourd'hui sont paradoxalement, ont plus d'outils peut-être pour agir avec les réseaux sociaux, avec les moyens modernes, mais je les trouve fragilisés et faibles. Non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce que l'ensemble du système fait que ces contre-pouvoirs n'arrivent plus à jouer leur rôle. Donc les ONG environnementales, les représentations des consommateurs, etc., sont devenues peut-être inaudibles pour deux raisons. Noyées dans une masse d'informations. Et deuxièmement, elles font face à des Goliaths qui sont de plus en plus gros et de plus en plus puissants.
Des campagnes de décrédibilisation.
Absolument. Oui. Et donc les rapports de force sont très déséquilibrés de plus en plus en raison d'une plus grande concentration des richesses.
C'est vrai. Alors... J'aimerais qu'on parle. On a abordé plein de choses, la boîte à outils, les études de cas. Vous avez même produit une web série pour changer l'imaginaire du dirigeant. Tu montres un petit peu ce que ça peut donner avec des vraies prises de parole.
Oui.
Donc on partagera le lien parce que ça, je trouve que c'est intéressant. Alors parlons des leviers du changement. Et des appuis qu'on peut avoir à l'extérieur. Alors, on a parlé un peu des médias, et toi, tu parles volontiers de la fabrique médiatique, parce que c'est eux aussi qui véhiculent la représentation du succès. Moi, personnellement, je me rappelle encore d'une petite anecdote. Il y a quelques années, il y a eu une bronca terrible des femmes entrepreneurs, quand le magazine Capital avait fait sa couve avec des start-upers tous quadras blancs, posant fièrement chemise blanche... jean, et personne n'avait pensé à cette couve qui était totalement caricaturale. Et alors, parfois, c'est de la provocation hein, de la part des médias, je ne suis pas complètement dupe. Là, je me dis, est-ce qu'ils ne voyaient pas où était le problème? Alors qu'ils ont un effet prescriptif sur la société. Si le média dit, voilà la réussite, parce que littéralement, c'est ça le titre, hein, ceux qui réussissent, ou un truc comme ça, ceux qui réussissent, il faut avoir cette tête-là, et il faut avoir levé tant de millions, enfin, il y avait des critères, quoi. Sinon, t'es un loser, mon gars. Et surtout, t'es une loseuse, parce que les femmes étaient invisibilisées. Donc, ce qui était vraiment chouette, c'est que ça avait donné des contre-couvertures, enfin, lieu à des rassemblements de femmes entrepreneurs, et ça avait bourgeonné et grogné pas mal, et je pense que ça avait donné un petit coup de pied aux fesses à certains médias qui véhiculaient cette caricature, mais justement, c'est une question que vous avez aussi abordée avec le tribunal des générations futures, mais c'est quelque chose qui est au cœur de votre action, de la représentation du leader.
C'est au cœur de l'action, c'est-à-dire de déjà faire connaître, donner envie avec d'autres récits. Donc tu parlais de la web-série du cœur aux actes, on l'a fait notamment pour ça, c'est un programme qui s'appelle « Le pouvoir des écrans », parce qu'on pense que le fait de proposer ces contenus, certes, elle est sur YouTube, donc elle n'est pas à la télé aux 20h, mais de proposer ces contenus accessibles permet une identification de pair à pair à des modèles de leaders qui nous ressemblent plus et qu'on a plus envie d'être. Tout le monde n'a pas envie d'être Elon Musk. Et donc, proposer des récits, des paroles de dirigeant à dirigeant, c'est un des leviers d'influence probablement les plus efficaces. Après, en sociologie des imaginaires, on a travaillé sur... la façon dont les imaginaires évoluent, et le mot technique pour le dire, c'est les imaginaires diurnes et les imaginaires nocturnes. Les imaginaires diurnes, c'est ceux qu'on voit dans les grands médias, c'est ce que tu rappelais. Et en même temps, dans une société, il y a toujours en même temps un fourmillement d'autres choses par contraste. Et donc ce fourmillement d'autres imaginaires, il existe, mais il est assez invisible.
Et pourtant, il est souvent majoritaire.
Est souvent majoritaire, mais ce n'est pas celui qu'on voit.
Oui.
Et au fond, est-ce bien grave? Donc, que certaines figures soient mises en avant comme le grand leader qui a réussi, au fond, la plupart des gens, surtout quand ils avancent en âge, sont capables de faire la différence entre réussir sa vie ou réussir dans la vie. Et que donc, Cyril Vu, PDG de Seabird, qui a réussi matériellement, nous a bien dit, d'ailleurs dans ses témoignages vidéo, mais au fond... c'est quoi le sens? Ça sert à quoi, ça? Donc, c'est pas ça, réussir sa vie. Donc, la plupart des gens, heureusement, ont une lucidité et ne confondent pas le décor social et la réalité. Et la réalité de leur vécu et de leur perception à eux d'abord, qui est, est-ce qu'ils sont fondamentalement heureux? Donc, nous, avec notre université, Un de nos objectifs clés, c'est de favoriser déjà le bonheur du dirigeant lui-même, son meilleur alignement entre ce qu'il sait, ce qu'il ressent et ce qu'il fait.
Oui, en fait, ça rend heureux mais d'être
oui,
aligné.
Ça rend plus heureux d'être aligné. Et donc, pour certaines personnes, ce n'est pas un sujet, ils sont complètement dissociés entre ce qu'ils font et leurs émotions. Et c'est souvent lié à des traumatismes de l'enfance ou à des modèles qui s'imposent à eux-mêmes et finalement, c'est une souffrance psychologique, mais ils ne la ressentent pas. Pour d'autres, c'est quand même, ça gratte. Ça gratte. Alors tous ceux pour qui ça gratte un peu, nous on est là pour justement les aider à la boîte à outils, à l'entraide entre pairs, à faire ce qu'ils ont vraiment envie de faire dans la vie en fait, et ne pas se laisser polluer, mais vraiment c'est le mot, ne ouais. pas se laisser polluer par des imaginaires de réussite has-been en fait.
Et, voilà. Et alors tu parles du collectif, quand on a préparé, tu me parlais des binômes et de l'importance de ne pas aller seul et de ne pas affronter seul tous ces, ces problèmes. Parce que le problème du leader, c'est la solitude,
c'est la solitude
du leader. Donc là, ici, on est sur un podcast de professionnels du DD. Toi, tu dis que ça peut être un bon binôme, la personne qui est vraiment au cœur de la stratégie RSE DD et qui sait que ça doit être beaucoup plus... le changement doit être beaucoup plus profond qu'un simple ripollinage vert dans son entreprise, mais qui a du mal parce que tu as du mal à être reconnu, écouté, que c'est le directeur DD n'est pas encore le directeur stratégique, le directeur marketing, le directeur qui est au COMEX et qui va prendre des décisions. Donc tu dis que ça peut être un bon binôme.
C'est un bon binôme. On l'a attesté dans la promo 1. On avait un DG qui est venu avec son DAF et sa DRH. Et dans la promo 3, il y a Laurent Marteau, qui est donc directeur général du groupe L'Occitane, qui est venu avec Adrien Gégère, qui est le Chief Sustainability Officer. C'est un super binôme. Et nous, on est heureux de les avoir parce que justement, tous les points de tension, tous les paradoxes habituels entre l'économique et le durable peuvent être discutés, travaillés en sous-groupe, en codev pour arriver à des décisions qui certes ne sont probablement pas radicales mais qui seront déjà des avancées. Donc oui, en fait, à partir du moment où le DG lui-même a envie, et on revient sur la notion de ce qui anime les personnes en se levant le matin, à partir du moment où il a envie, il y a toujours une trajectoire. Moi je suis confiante sur le fait qu'il y a toujours une trajectoire.
C'est très positif. Alors, on a parlé de manière quelque part abstraite. Néanmoins, tu as donné des exemples très, très concrets. Mais imaginons que je rentre dans le parcours de transformation pour dirigeants du cœur aux actes. Est-ce que tu peux m'expliquer concrètement comment ça se passe? Tu m'as dit qu'il y avait plusieurs temps forts, comme des passages un peu.
Est-ce tout à fait. Alors, c'est un parcours de transformation itinérant, en plus, on voyage. Donc, le premier module, c'est un module de montée à bord. Du parcours pour faire connaissance avec le reste du groupe et aussi pour faire un diagnostic de son système de valeurs avec une experte qui s'appelle Karine Dartig-Pérou, qui est géniale, qui a monté l'Observatoire des valeurs. Et ça permet de mieux creuser ses valeurs. Et donc, comme les valeurs sont souvent la source de ses émotions, on a une émotion forte comme quand on est en conflit de valeurs et que les émotions sont aussi des sources d'intuition. C'est bien de connaître son système de valeurs et surtout, c'est bien de comprendre que le sien est forcément différent de celui des autres. Et donc, c'est un premier pas sur le travail des relations aux autres et au monde. On a tous des systèmes de valeurs différents. Comment, du coup, on décide ensemble? Parce qu'on ne sera jamais aligné. Donc ça, c'est la première étape de connaissance de soi. Et ensuite, on a 8 modules, 2 jours tous les 2 mois, faits de rencontres de dirigeants, pionniers ou en tout cas inspirants sur nos thématiques, puis d'expertise, puis de passage aux actes en atelier. Donc c'est une pédagogie inversée, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, ouais. C'est-à-dire on s'immerge d'abord, on réfléchit après et ensuite on fait.
La théorie à la fin.
Voilà. Et donc dans nos thématiques de modules, on a donc un module sur intuition, performance émotionnelle, on a un module sur l'entreprise et les limites planétaires, où on le fait dans la région lilloise volontairement et non pas pour aller faire du tree-hugging ou de se reconnecter au vivant, parce que j'ai choisi le parti pris de dire il faut comprendre pourquoi et comment l'économie a ravagé le milieu naturel et accessoirement les humains dans une métropole avec un taux de chômage, avec un territoire charbon, industrie textile, grande distribution, etc. Il faut arriver à comprendre les racines, les effets, la configuration des acteurs pour peut-être pouvoir permuter. Et donc, on rencontre sur ces territoires des entreprises connues comme Pocheco, mais aussi d'autres qui sont des industriels en transformation confrontés à tous ces paradoxes. On a ce module gouvernance ensuite en Bourgogne avec Ulteria. On a un module sur le courage d'être soi dans la région d'Aix-Marseille, à la fois avec une visite d'usine avec des ateliers autogérés et puis un travail sur la position de vie du dirigeant. Et c'est le point de bascule dont tu parlais qui est, après avoir compris les enjeux, encore faut-il passer aux actes. Donc je vais passer aux actes au nom de quoi, en fait, qu'est-ce qui m'anime et sur quoi vraiment je vais mettre mon énergie et me battre un peu. Et donc ça suppose un travail sur son ego, son faux self, à nouveau son système de valeurs, et là encore, on va décider agir au nom de quoi. Ensuite, on a un module sur les dilemmes éthiques du dirigeant, et il y en a plein, éthique et numérique, éthique et impact sur le vivant. Là encore, comment des dirigeants se débrouillent face à ces dilemmes éthiques, comment les process, et donc je ne parle pas de business ethics ou de compliance, on parle là vraiment de dilemmes majeurs sur des décisions fortes qui sont prises par un dirigeant seul. Donc on ne parle pas de « on se conforme à un cadre légal », on se dit « mais est-ce qu'on veut vraiment prendre cette décision ?»
Non, mais on est en dehors du cadre légal, complètement.
Absolument. Et après, on termine le parcours avec un module sur « compter ce qui compte », les nouveaux référentiels de comptabilité en performance globale, et un module de clôture et de rampe de lancement pour la suite, qui est « comment continuer à agir avec cette énergie-là dans la durée ». Voilà, donc c'est un parcours entre pairs, avec beaucoup de temps d'échange, d'entraide, d'éco-dev, des temps entre les modules, et un parcours dans le terrain, parce que là encore, je suis convaincue que c'est qu'en analysant, comprenant, ressentant ce que des dirigeants ont fait, qu'on peut ensuite passer aux actes.
Oui, puis ça crée un collectif tout à fait proche, et qui pourra compter, tu disais que les premiers à avoir fait votre formation deviennent partie prenante de sa gouvernance, et finalement ça va faire un terreau sur lequel
tout à fait,
ils vont se sentir plus forts.
C'est l'horizon qu'on se donne. On a envie de créer un mouvement de dirigeants, un mouvement autour du Heart Leadership. Là d'ailleurs, la première promo est en ce moment même en voyage, en expédition en Suisse pour aller à la rencontre de dirigeants suisses pour continuer à regrouper et élargir effectivement des dirigeants qui sont animés par cette énergie.
Alors, on comprend qu'il faudrait des kyrielles de managers conscientisés et volontaires, parce qu'on vient te voir quand on a compris qu'il y a quelque chose qui ne collait pas, soit qu'on n'était pas aligné, soit que son entreprise n'était pas sur la bonne voie. Est-ce que tu peux partager avec nous ta raison d'être optimiste ?
Ça, c'est une bonne question. Ma raison d'être optimiste, c'est que j'ai l'impression qu'il y en a au moins certains qui ont compris, qui essayent et qui avancent. C'est l'histoire du verre à moitié vide et à moitié plein. Je pense qu'on pourrait regarder tous les signaux adverses.
Merci Hélène, mais aujourd'hui, on veut le vide. Le verre à moitié plein, parce que vraiment, les signaux, sinon, sont affreux. Donc, donne-nous le verre à moitié plein.
Voilà, ben, le verre à moitié plein, c'est ça. C'est qu'il y a des dirigeants fantastiques, Michel Meunier dans l'Oise, que personne ne connaît, qu'on ne voit pas sur la couverture de Capital ou Challenge. Et que donc, oui, ils existent. Oui, il faut aller les rencontrer. oui, il y a moyen d'avancer un peu. Et quel que soit le résultat, on sera toujours heureux d'avoir essayé. Et ça, pour moi, c'est ce qui me nourrit en termes d'optimisme.
C'est ton côté leader qui trouve sa force dans l'action. En tout cas, ce qui serait intéressant, je me disais quand on a préparé ça, c'est que tu prépares une promo version pour les politiques. Tu vois, ça serait pas mal, devenir un leader HLU version politique. Allez, dis-moi que tu y as pensé.
On y a pensé, on a même eu des premiers échanges sur ce sujet. Et de la même façon, je pense qu'il y a un espace d'accompagnement des dirigeants politiques, en commençant par les petits et moyens. Parce que dans les 30 et très grands dirigeants, c'est on est dans la piscine aux grands requins, c'est-à-dire qu'on va à nouveau être confronté à l'exercice violent et brutal du pouvoir et à des modèles extrêmement déviants. Pour les passionnés de politique, il faut lire « Histoire de l'autorité » de Mendel, où il faut lire aussi « Ces psychopathes qui nous gouvernent » de Hess, passionnant. Et donc je ne crois pas qu'on puisse transformer un psychopathe, et d'ailleurs... les psychiatres qui sont spécialisés en psychologie des dirigeants et des dirigeants politiques le disent. La psychopathie fait partie des pathologies qui ne peut que très, très, très difficilement s'accompagner. Donc, il y a des batailles à pas mener. Par contre, sur le terrain, oui, bien sûr, un dialogue intéressant entre les dirigeants d'entreprise et les dirigeants politiques au plus près du terrain.
Alors... Hélène, on est presque arrivé à la fin de ce podcast. Déjà, je voudrais remercier tous ceux et toutes celles qui auront écouté malgré ma voix absolument terrible. Je pense que c'est particulièrement désagréable pour les auditeurs, mais heureusement, Hélène est passionnante et le sujet est tellement important que ça justifie l'écoute jusqu'au bout. Donc, les deux dernières questions traditionnelles de ce podcast. La première, c'est, de façon métaphorique ou totalement au pied de la lettre, peut-on et comment changer le monde depuis sa chaise de bureau ?
Et oui, je pense qu'on peut changer le monde depuis sa chaise de bureau ou derrière un micro, dans un podcast. Je pense que ce dont le monde a besoin, c'est d'un rayonnement positif et de la capacité de chacun à s'émerveiller et à redonner sa place au merveilleux. C'est une capacité que tous les enfants ont, qu'on met de côté à l'âge adulte, avec deux dérives, utilitarisme ou idéologie. Et on dit que c'est ça être adulte. Ben moi, je forme un vœu qui est prenons du temps pour s'émerveiller. Et ça, on peut le faire depuis n'importe quelle chaise de bureau.
Merci, c'est un très bon conseil, très applicable en plus. Et toute dernière question. Tu nous as listé beaucoup d'ouvrages et on va les noter en fin de podcast parce que je pense que ça va devenir une petite liste de différentes bibles pour les gens qui veulent aller plus loin. Et évidemment, l'invitation est également à venir participer à Chez Lu. Mais est-ce que tu peux nous partager une œuvre qui est ou a été importante dans ta vie, un livre, un film qui t'aurait marqué dans ton parcours et nous dire pourquoi ?
Alors, avec plaisir. Sur les livres, effectivement, merci beaucoup, Céline. Et je vous invite à aller faire un tour dans la bibliothèque de HLU, parce qu'on a une page web avec les références de tous les livres qu'on recommande.
Ben, voilà, voilà,
elle existe. On l'a montée avec Céline Mas de Love for Livre, qui est une nana fantastique. Et donc, on a fait une sélection d'ouvrages à la fois sérieux, essais, mais aussi romans, voire BD.
Très bien. Il y a d'excellentes BD sur nos sujets. Hein.
Absolument. Ah oui. De plus en plus, d'ailleurs.
Pour vulgariser.
Et donc, le livre que j'ai envie de partager là aujourd'hui, c'est « Cantique de l'apocalypse joyeuse » de Pasi Liina, qui est un auteur finlandais satirique qui n'en est pas à son premier roman. Hein. Il a écrit un certain nombre de romans drôles. Pourquoi je vous partage celui-là ? C'est que je pense que le monde qui vient n'est pas forcément drôle et qu'il faut une sacrée dose d'humour et que le style satirique, sans qu'il soit grinçant, est précieux pour mettre à distance un peu tous les problèmes qu'on vit. Et en même temps, trouver l'énergie, la ressource interne, la joie finalement, c'est le mot que je cherchais, la joie de tracer sa route quoi qu'il arrive. Voilà, donc je vous encourage à lire tous les livres d'ailleurs de Pasi Liina.
Merci. En tout cas, c'est bien noté. Et faire preuve d'humour est absolument indispensable, toujours, mais en particulier aujourd'hui. Donc moi-même, je suis assez fan de Malheurs Actuels qui prend toutes les nouvelles et on fait quelque chose de drôle et à chaque fois tu te dis bon sang, mais c'est bien sûr. Mais je lirais Cantique de l'apocalypse joyeuse, rien que le titre est une invitation, je suis d'accord avec toi. On arrive au bout de ce podcast et vraiment je voudrais te remercier Hélène, tu as été extrêmement patiente vis-à-vis de ma condition et ton énergie a fait oublier mon manque de dynamisme exceptionnel ce matin. À très bientôt, j'espère, et donne-nous des nouvelles de HLU.
Merci Céline, merci.
Merci pour votre écoute. Ce podcast est à retrouver tous les mois sur les meilleures plateformes de podcast et sur le site web du C3D. Si ce podcast vous a plu, je vous invite à le noter, 5 étoiles, pourquoi pas, et surtout à le partager largement.